France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Coron les épeint? Non!
Hi, darling. Darling. Oh. I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lucien de Samos... Attendez, pardon, excusez-moi, juste un instant, pardon. Ça y est, je l'ai eu. Désolé, ce n'était qu'une mouche. C'est fou comme c'est agaçant, ces satanées diptères, quand elles bourdonnent autour de nous. Impossible de penser à autre chose. Bah quoi ? On a le droit, non ? Il ne ferait pas de mal à une mouche, dit-on parfois en français. Mais en allemand, pour faire d'une pierre deux coups, on dit « tuer deux mouches avec une seule tapette ». On a le droit, vous dis-je, car elles sont si petites, sans défense, et méprisable. D'ailleurs, on les déteste. Elias Canetti le dit bien dans Masse et puissance. La destruction de ces créatures minuscules est le seul acte de violence qui, même en nous, reste impuni. Leur sang ne retombe pas sur nos têtes, n'appelle pas le nôtre. Pourquoi ? Mais parce que la mouche, dit-il encore, vit dans un autre ordre de grandeur et de puissance que nous. Est-ce si sûr ? Allons-y voir, car la peinture, la photographie, le cinéma font le portrait de cette grandeur et de cette puissance. Alors, pour une fois, adoptons le point de vue du diptère pour regarder autrement le monde, la mort, le temps. Quand l'art fait mouche, je vous assure qu'on va de surprise en surprise. C'est ce qui nous attend aujourd'hui avec Peter Geimer et Armelle Femela, bientôt rejoint par notre sociétaire du jour, Elvan Zabunion. Mais je vous préviens, nous n'en sortirons pas indemnes car nul n'est à l'abri de terribles métamorphoses comme dans Return of the Fly d'Edward Burns, 1959.
Listen. Do you hear? It's coming back. Turning the screen into a buzzing, crawling, creeping nightmare of terror. This is the son of the original fly, daring to explore the forbidden science of transmigration that brought horrible death to his father.
You look as if you've just seen a ghost, old man.
It was the fly.
Fear that will fasten its choking grip on you as his weird experiments spawn the twisted monstrosities of a living hell. The rat man whose hands and feet are changed to paws. The living corpse who rose from his coffin. And the return of the fly.
Quand je vous disais que ça ferait peur, Peter Geimer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'art, professeur à la Freie Universität de Berlin et directeur du Centre allemand d'histoire de l'art à Paris. Vous avez publié de nombreux livres sur Roland Barthes, Jacques Derrida, notamment sur le Narrleben, cette survivance si difficile à traduire de l'allemand. Mais de l'allemand, trois de vos livres pourtant ont été traduits en français. Une histoire des surgissements photographiques aux presses du réel en 2018, Les couleurs du passé chez Macula en 2023 et toujours chez Macula, ce formidable petit livre intitulé « Mouche, un portrait », ce livre qui vous amène chez nous, petit par la taille, oui, mais la mouche, c'est une toute petite bête qui peut provoquer de grands carnages. Ça vous est venu comment, cette histoire de mouche ?
Alors, l'éditeur, parce qu'il s'agit d'une série en Allemagne, et ça fait partie d'une série avec des livres aussi sur le courbeau, le serpent, etc. Et l'éditeur m'a demandé si j'ai envie de participer à cette série, et j'ai immédiatement choisi la mouche, Pourquoi? Parce que la mouche me paraît d'être une sorte anti-animal,
hein,
qui se distingue par une série de négations. On ne mange pas des mouches, on aime trop des mouches, on ne donne pas des noms aux mouches, on ne
cultive pas de noms affectueux, mais non.
Oui, on ne cultive pas des mouches, et si on les cultive, c'est pour les tuer,
juste
comme
on les déteste
dans les laboratoires, voilà. Donc le mouche, c'est étrange, hein, c'est l'autre. Le mouche, c'est l'autre.
L'autre, voilà. Elles assassinent la pensée, voilà, disait
l'altérité. L'altérité.
Bonjour Armelle Femelin.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, vous êtes critique, vous êtes également éditrice, et votre thèse de doctorat a porté sur les portraits équestres dans l'Italie des 15e et 16e siècles. Vous êtes l'autrice d'un superbe livre sur Léonard de Vinci, Animal, paru en 2019 chez Volare, et vous vous intéressez depuis à d'autres animaux moins gros que le cheval, mais plus que la mouche, notamment les chiens des Gonzagues, on en parlera, les ducs de Mantoue à la Renaissance, non pas comme espèces adversaires de l'homme, mais comme nos partenaires qui sont individualisés dans des portraits interspécifiques. Vous, les animaux que vous étudiez, ben, ils ont des noms et des individualités, et on peut en faire le portrait.
Oui, tout à fait. Je me suis surtout intéressée aux chevaux et aux chiens des Gonzaga. Toute une histoire, en fait.
Toute une histoire. Alors, commençons par votre mouche, Peter. Vous avez une image devant les yeux, c'est le portrait du Chartreux. Où est la mouche?
Oui, il s'agit d'un portrait d'un moine qui se trouve à New York, au Metropolitan Museum. Le peintre s'appelle Petrus Christus. Et voilà, on voit le Chartreux qui nous regarde. Et le détail qui nous intéresse, c'est qu'il y a une mouche dans cette peinture. Donc il y a un cadre peint qui imite le bois, comme oui, souvent dans ce temps-là. Donc, et dans ce cadre, on voit une mouche.
Toute petite concession à l'ordre de la perspective, hein, c'est voilà, juste un petit rebord. Et la mouche est posée là, avec évidemment, on en parlait dès le début, Armelle Femelin, une question de grandeur, d'échelle, de perspective.
Oui, ce qui est frappant dans ce portrait, qui fait partie des nouveaux portraits tels que les a inventés Jan van Eyck et d'autres, une quinzaine d'années avant, se définissent par leur réalisme, leur naturalisme. Et là, cette mouche, elle est très très réaliste.
Elle est de profil.
Elle est, voilà, ça c'est son unicité par rapport à tout ce que vous montrez dans votre livre, Peter, et puis tous ceux qui ont été répertoriés, les mouches répertoriées par André Chastel et puis Daniel Arras, qui les ont bien étudiés, hein, c'est Musca pinta, un topos, depuis l'Antiquité. Et celle-ci est de profil, ce qui en fait vraiment sa spécificité. En revanche, elle est à grandeur, elle est grandeur nature.
C'est en fait le Chartreux qui est plus petit que nature, hein, c'est ça. Et cet effet de perspective, Peter Gaimel, il est du fait que, au fond, on est tout près de cette mouche qui, elle, est grandeur nature.
Voilà, c'est parce que ça montre que le peintre a pris la mouche comme modèle, comme point de départ. Donc c'est l'échelle de la mouche qui nous donne accès, et pas l'échelle du Chartreux qui nous donne accès à cette image. C'est la mouche. Donc il a pris la mouche comme entrée, si l'on peut dire.
Il a pris la mouche. Et justement, Daniel Arras aussi avait pris la mouche pour nous montrer comment cette mouche, ce détail dans la peinture, eh bien, guidait notre regard. Hein, Armelle Femelin, justement, nous amenait à regarder là où il faut.
Exactement. Comme motif sur la peinture, en fait, oui, sur la surface, et pour nous faire prendre conscience dans ce jeu de trompe-l'œil que, nous amener non pas à regarder que ce qu'il y a de représenté, mais la manière dont c'est représenté, et nous faire prendre conscience que c'est un jeu de peinture et qu'il y a un jeu de tromperie, et nous faire réfléchir aussi. C'est ce que Victor Stoïkita a appelé de la méta-peinture.
C'est hein, ça, c'est ça.
Cette peinture qui pense et qui réfléchit.
Dans votre livre « Mouche, un portrait », Peter Gaimer, vous dites qu'au fond, la mouche est là pour créer de l'imprévisible, du hasard, une effraction du réel. Vous aussi, vous avez l'art de ménager les surprises. Vous ne nous avez pas dit ce qu'il y avait sur ce rebord.
Oui.
Là où s'est posée la mouche.
Oui, donc il y a une inscription qui dit « Petrus me fecit », donc le peintre, il m'a fait. Et on peut se poser la question, qui parle ici? Est-ce que c'est la peinture qui parle, ou est-ce que c'est la mouche, ou est-ce que ce sont les deux?
En tout cas, elle s'est posée sur la signature.
Voilà, exactement. Et Daniel Arras, dans le texte qu'on a déjà mentionné, il avait une idée extraordinaire. Il a dit la mouche, c'est aussi la signature du peintre.
Ouais, c'est ça.
C'est une sorte de deuxième signature du peintre.
En tout cas, elle s'est posée là.
Oui.
C'est comme ça aussi que commence votre livre. Il commence par une photo extraordinaire de Antonio Beato tombe des Mamelouks au sud de la citadelle du Caire, vers 1870. Je vous la repasse. Là, il s'est passé quelque chose, justement, oui. dans cette photographie.
Oui, il s'est passé quelque chose. Donc, Beato, il avait un atelier à Luxor. Il a fait des photographies pour des touristes, donc des photographies des sites égyptiens. Et un jour, donc il a fait cette photographie, on voit des mausolées, on voit une citadelle, et il y a aussi une mouche dans cette photographie. La mouche tourna autour du photographe, sans la moindre chance de passer à la postérité. C'est une mouche anonyme.
Oui.
Mais au moment...
Comme souvent les mouches, hein, il faut reconnaître.
Mais au moment où Beato a fait l'image, la mouche avait pénétré à l'intérieur de l'appareil. Ça veut dire qu'elle a laissé, elle est sortie de son anonymat et elle a laissé une trace. Et maintenant, nous avons la preuve de l'existence de cette mouche historique.
Elle était, oui, elle est contemporaine évidemment de la photo. Elle a été figée, voilà. C'est comme un photogramme dans la photographie, puisque d'une certaine manière,
oui.
C'est la surface photographique qui est devenue un papier. Tu mouches finalement, puis là aussi, hein, une question d'échelle, Armel Femme, là, puisqu'elle est immense par rapport au mausolée. Bon ben voilà, d'une certaine manière, le portrait de la mouche est campé. C'est aussi dans votre livre un portrait littéraire. Écoutez ce que disait Barbara Cassin sur France Culture en 1998 de l'éloge de la mouche de Lucien de Samosat.
L'éloge de la mouche est à la fois un éloge qui met en abîme l'éloge, c'est-à-dire qui le satirise ou qui le ridiculise comme genre puisque son objet est minuscule. Mais en même temps, il montre bien qu'on y arrive. Il est très bien cet éloge de la mouche. Il est fondé sur tout ce qui marche dans tous les éloges. Il est fondé sur Homère, il est fondé sur les tragiques. Il est fondé sur la philosophie elle-même, sur ce que c'est que l'homme. Donc ça marche.
Mais le trait le plus important de la nature des mouches, je veux maintenant le dire. Et il me semble que ce seul point a échappé à Platon dans son ouvrage sur l'âme et sur son immortalité. Une fois morte, la mouche ressuscite, si on répand sur elle de la cendre. Elle connaît une sorte de nouvelle naissance et une autre vie à recommencer. Ainsi donc, tout le monde a la certitude absolue que l'âme des mouches est immortelle, comme la nôtre, puisqu'ayant quitté le corps, elle y revient, reconnaît et ressuscite son corps, et fait que la mouche s'envole.
J'ai vu dans le ciel une mouche à miel.
France Culture.
Passant sa guitare.
Allons-y voir.
Un confus, son élange élu, au son de la fanfare.
Patrick Boucheron.
J'ai l'impression qu'il y aura plein de surprises dans cette émission, comme la mouche sait nous en procurer. Alors Lucien de Samosat, c'est un auteur latin du IIe siècle. Il a fait aussi d'ailleurs un éloge de la danse, et on verra que c'est pas sans rapport, la chorégraphie et la mort des mouches. Armel Femla, c'est intéressant parce que évidemment vous êtes une historienne de la Renaissance, puis ça n'a pas échappé à quelqu'un comme Leon Battista Alberti, justement, que l'éloge de la mouche, d'une certaine manière, s'engageait là, l'idée même de Renaissance.
Exactement, oui. Dans un texte qui s'intitule Mousca, Alberti se compare avec Lucien, et fait le même genre d'exercice.
Paradoxal.
Exactement. Qui tient sur le renversement du mépris de l'humain pour démontrer la suprématie de la mouche, de la même manière, dans un exercice de virtuosité littéraire et intellectuelle, alors que les sources semblent indiquer qu'il s'exprimait également sur son horreur des mouches en réalité, mais il se livre à cet exercice littéraire, à se demander aussi, pour rebondir sur le tableau de Petrus Christus et l'hypothèse de Daniel Arras de voir peut-être un autoportrait de l'artiste en mouche, puisque la mouche sur le tableau dont nous parlions est placée juste au-dessus du nom de l'artiste. Peut-être Alberti a-t-il fait la même chose avec la mouche, comme le démontre Michel Paoli dans le livre que je dirige actuellement sur le portrait à la Renaissance. C'est une hypothèse, puisqu'Alberti a également écrit Canis, un éloge funéraire à son chien, mais oui, également un autoportrait.
À lui-même, oui. C'est, effectivement, c'est double portrait dont vous êtes
mise en abyme,
l'historienne Armel Femla. Peter Gamet, effectivement, il y a cette idée où le suggéré dans le premier chapitre de votre livre « Mouche, un portrait » que la mouche qui s'est invitée dans la photographie du Caire, bah, elle a fait une sorte de selfie, finalement. Elle s'est, c'est un autoportrait inattendu, mais c'est elle qui a décidé d'être là.
Oui. Voilà, c'est pas clair si c'était vraiment une décision. Peut-être c'était une décision, mais vous avez raison, on dirait qu'il s'agit d'un autoportrait. Et vous avez aussi déjà dit, d'un point de vue technique, c'est pas une photographie, la mouche, mais un photogramme, parce qu'elle a touché la plaque. Il s'agit d'une plaque en verre. La plaque, malheureusement, n'existe plus. On a juste l'épreuve. Et un autre détail qui m'a intéressé, c'est que Beato a signé la photographie. Mmh. C'est pas étrange. À cette époque, les photographes ont signé les photographies. Mais par hasard, la mouche s'approche à la signature. Donc, on peut se poser la question, à quel moment Beato a signé la photographie? Probablement après qu'elle a fait le tirage. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il y a aussi signé la mouche? Est-ce qu'on peut signer une mouche? Parce que c'est une chose naturelle, c'est pas une chose, au contraire, au trompe-l'œil, parce que ce sont des mouches faites par des peintres, donc ici c'est une vraie mouche, une mouche réelle, et on peut poser la question, c'est Beato a décidé, et ça serait à peu près un geste à la Marcel Duchamp, on peut poser la question, est-ce qu'on peut signer une mouche?
Bien sûr. Dans votre livre, il y a un chapitre formidable, L'œil inquiétant, qui part d'un texte étonnant de Robert Musil qui décrit précisément, j'irais presque avec une attention bienveillante, la mort des mouches sur un papier tue-mouche. Cette sorte de chorégraphie lente où chaque geste, d'abord effectivement, elle tente de s'en échapper, et puis ce moment bouleversant où elle renonce, où elle tombe sur le côté comme un avion, écrit Musil. Voilà. Et puis, vous mettez ça en rapport avec une photographie de Jacques-André Boiffard, papier collant, où on voit effectivement une sorte de, comment dire, de mouvement saccadé qui va vers la mort. Ouais. Et ça, c'est très, effectivement, lié à votre sujet.
Oui. C'est vraiment un texte extraordinaire et il y a chez Musil, si l'on peut dire, plusieurs styles de mourir parce qu'il décrit l'agonie de plusieurs de ces mouches et à la fin, et ça c'est le détail qui m'a beaucoup intéressé, il dit à la fin, les mouches sont mortes mais il y a quelque chose qui survit. Et c'est une ouverture qui s'ouvre et Musil écrit, on a l'impression que c'est un œil. C'est un œil, donc la mouche à peu près déjà morte mais qui nous regarde.
C'est ça.
Et ça, c'est le moment qui est fascinant. La mouche qui nous regarde, hein, le regard d'une mouche.
Alors, ce qui nous regarde, effectivement, dans la mort des mouches, eh bien, c'est aussi, effectivement, cette étrange chorégraphie. Écoutez ce qu'en disait Yann Fabre, c'était sur France Culture, LSD 2020.
Yann Fabre, artiste belge, dessinateur, sculpteur, chorégraphe et metteur en scène.
When you working as a director, a metteur en scène or a choreographe, also very important in my oeuvre, I'm a consilience artist. That means consilience.
Lorsque je travaille en tant que metteur en scène ou chorégraphe, ça aussi c'est très important dans mon oeuvre. Je suis un artiste conciliant.
For example, to make it simple,
la conciliation donne libre cours à de nouvelles interprétations. Par exemple, pour faire simple, lorsque l'on étudie l'entomologie et que l'on étudie l'intelligence des insectes, la manière dont ils appréhendent l'espace, et que vous comparez cela avec les humains, vous pouvez trouver des liens et tous ces liens peuvent vous donner de nouvelles interprétations. C'est cela que l'on appelle la conciliation. Par exemple, lorsque je prépare une mise en scène et que je prépare la topographie de ma scène centrale, c'est souvent basé sur le territoire des insectes. Par exemple, en ce qui concerne la chorégraphie, parce que j'ai beaucoup étudié les insectes et les animaux, j'utilise beaucoup de mouvements empruntés aux insectes afin de développer un nouveau langage en danse. Les acteurs et danseurs sont entraînés en tant que performeurs contemporains. Ils sont, autrement dit, initiés à devenir des artistes conciliants.
Armelle Femla, on s'est apparemment éloigné du Quattrocento, mais pas tant que ça, parce que de toute façon, c'est aussi un symbole religieux, iconographique, qui est lié au memento mori, la mouche, et qu'on retrouve dans beaucoup d'enluminures. En particulier, il y a un moment naturaliste de la peinture dans les livres, des enluminures, dans l'Italie du Nord, du XIVe siècle.
Oui, exactement. La mouche, symbole du coup de chair périssable et de la mort présente. Et ce qui est étonnant dans ces manuscrits que vous mentionnez, c'est qu'on a déjà aussi la question de l'échelle, où ces mouches qui interviennent, qui sont symboles de mort, mais qui interviennent dans des scènes sacrées, hein, et qui sont plus grosses que le reste de la représentation et plus réalistes.
Dans les heures Visconti, notamment.
Alors, dans les heures Visconti, voilà, que vous devez connaître, en tant que spécialiste des Visconti, on a une enluminure qui illustre une scène de la Genèse, la création du ciel et de la terre, avec sept mouches qui sont très réalistes, représentées vues de dessus, comme souvent, hein, contrairement à celles qu'on a évoquées au début et qui étaient vraiment spéciales. On en a au niveau de la représentation du ciel, quatre, et puis trois de la terre.
Oui.
Qui sont grandeur nature, une fois de plus, alors que la Terre est évoquée en dessous par des cervidés qui sont beaucoup plus petits et beaucoup moins réalistes. Le peintre, qui est Salmone dei Grassi, qui est le fils de Giovanni dei Grassi, fait partie des grands metteurs en scène de ce naturalisme tout à fait nouveau. Et l'on sait qu'il travaillait, alors pour les mouches, on ne sait pas, mais ils ont laissé des carnets de croquis, ces peintres lombards, et l'on voit qu'ils ont travaillé à partir d'animaux morts, de dépouilles.
Ça c'est intéressant, Peter Geimer, parce que effectivement vous posez aussi la question naturaliste à la fin de votre livre, et notamment voilà avec ces grandes collections d'insectes morts que vous décrivez.
Oui, c'était un moine en Autriche qui le premier a créé une collection des mouches. Donc il a voyagé un peu partout en Europe et il a créé la première grande collection des mouches qui existe encore en Autriche. Et voilà, je parle aussi un peu de la génétique parce que la mouche est aussi le héros de la génétique.
C'est ça, c'est l'animal domestique de la génétique, vous le dites, et c'est par les mouches, d'une certaine manière, qu'on apprend à l'école ce que c'est qu'un gène. Votre livre, d'ailleurs, se termine par une rapide collection. C'est tout à fait fascinant, quand même, parce que, vous venez de le dire, c'est lié à la chair putréfiée, c'est lié aussi aux animaux immondes, et ce qu'on appelle les mouches à viande, ou les mouches à merde, hein, disons-le. Et ben, c'est aussi les plus jolies. Enfin, celles qui sont les plus colorées, la fameuse Lucilie soyeuse, par exemple.
Oui, la mouche est toujours un animal paradoxe parce que on l'associe avec la merde, hein, il faut le dire, et elle se nourrit des choses pourries, etc. Mais il y a aussi cette beauté, il y a aussi des mouches qui sont très belles, hein, les couleurs, etc. Donc la mouche est un animal paradoxe.
Et c'est pour ça aussi que c'est ce paradoxe qui en fait justement l'instrument de la métapeinture, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a dit depuis le début, en somme, le lieu de peinture où le peintre peut, au fond, faire montre de sa puissance, qui est la puissance du réel, au fond.
Et oui, et il y a aussi la mouche dans les trompe-l'œil, et on dirait que c'est pas vraiment pour tromper, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est pas vraiment pour tromper le spectateur, parce que le spectateur doit à la fin réaliser que c'est une mouche peinte. Hein, on aurait presque été trompé. C'est très important le trompe-l'œil. C'est pas pour vraiment tromper le spectateur, mais que le spectateur voit à la fin, ah, c'est la maîtrise du peintre. À la fin, c'est pas la tromperie, c'est pas vraiment qu'on ne comprend pas qu'il ne s'agit pas d'une mouche réelle, mais à la fin, il faut comprendre, on aurait presque été trompé, mais grâce à la maîtrise du peintre, on voit que c'est une mouche.
Mais c'est ce que raconte Vasari d'ailleurs, oui. Armelle Femla.
Il y a toute une tradition.
Racontez-nous en fait, c'est le moment.
Depuis l'Antiquité.
Oui.
Oui, dans la vie de.
Il y a Giotto.
Voilà. En fait, Giotto représente une mouche et
sur la
peinture de Cimabue et que, effectivement, Cimabue s'y trompe. Voilà. Et Daniel Arras rappelle que, au fond, c'est pas possible. Et non seulement Giotto peut pas avoir fait ça, mais Vasari peut pas imaginer qu'il l'ait fait. Donc, ce qui est en jeu dans cette histoire du trompe-l'œil, c'est bien cette puissance renouvelée de la peinture, Peter Gamer.
Oui. Oui, parce que là, c'est aussi l'échelle de la mouche qui nous pose la question. Où la mouche se trouve-t-elle dans la peinture? Est-ce qu'elle est à l'intérieur du peinture? Est-ce qu'elle est devant la peinture? Donc la mouche, c'est toujours de peindre des mouches en trompe-l'œil. C'est toujours réflexion sur sur plusieurs degrés de réalité de la peinture.
Je suis une mouche. Sur sa bouche, elle était nue, on aurait cru le paradis, tant elle était jolie. Je suis une mouche, posée là sur sa bouche. Je n'avais Dieu que pour elle, mais elle voulait que je me tire à tire d'elle sur ses lèvres. Moi, j'avais décidé de ne plus jamais m'envoler. Sur ses lèvres, moi, j'avais décidé de ne plus jamais m'en aller. Mais que fait donc cette mouche? Posez là sur ma bouche, demanda-t-elle au peintre qui lui dit comment c'est joli de voir cette mouche dessinée sur ta bouche. Et moi j'aurais tout donné, oui tout donné, pour pouvoir l'embrasser sur ses lèvres. Moi j'avais déposé le plus doux des plus doux baisers sur ses lèvres. D'une gifle elle m'a tué, croyant que je voulais la piquer. J'étais une mouche. Sur sa bouche, elle était nue, on aurait cru le paradis, tant elle était jolie. Je suis une mouche, écrasée sur sa bouche. Il ne faut pas dire aux femmes qu'on les aime, sinon elles deviennent piquées. Sur ses lèvres, moi, je m'étais posé pour lui dire que je l'aimais. Mais les femmes, moi, je ne m'étais pas méfié. C'est un peu tard, vous me direz. C'est un peu tard, vous me direz. C'est un peu tard, vous me direz. J'étais une mouche posée sur sa bouche. Je voulais seulement l'embrasser, mais elle a cru que j'allais la piquer. Que c'est dur d'être une mouche. Tant d'autres que vous prennent la mouche. De moi il ne reste qu'un point sur un tableau. Comme le ciel est loin sur ses lèvres. Moi je m'étais posé pour lui dire que je l'aimais. Mais des femmes moi je ne m'étais pas méfié. Une mouche c'est vraiment bête à tuer. Une mouche c'est vraiment bête à tuer. Une mouche c'est vraiment bête à tuer.
Je suis une mouche, chantait Michel Polnareff en 1972, même s'il dit à la fin qu'une mouche est bête à tuer, mais prenons-le au mot. Soyons une mouche et essayons de voir, Peter Gamer, comment une mouche pourrait nous voir le monde. Vous en parlez dans votre beau livre paru aux éditions Macula, et notamment depuis cet extraordinaire tentative artistique de Jacob von Uxküll. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Voilà. Alors, Uxküll, c'est un biologue et il avait une théorie que peut-être aujourd'hui on peut comparer avec le constructivisme. Donc l'idée, c'est que chaque existence, chaque espèce vit dans son propre monde. Mm-hmm. Et ce sont des bulles. Mm-hmm. Uxküll et dit littéralement, ce sont des bulles. Donc on vit dans une bulle, un Umwelt, environnement. Et chaque existence a son propre environnement et on ne peut pas échapper du monde.
Donc, monde animaux et monde humain, c'est 1909.
Exactement, c'est le titre de Uxküll. Donc quand même, il se posait la question, comment une mouche perçoit-elle le monde?
Ouais.
Et donc d'un côté, il a dit c'est impossible d'imaginer ça parce que nous sommes cachés dans notre propre perception, mais quand même il a essayé de faire ça. Et il a montré une photographie d'un village
Ça, une rue de village, oui, une aquarelle, et puis avec effectivement un flouté pour essayer de rendre compte de cet œil de mouche.
Et aussi une chambre, donc il a comparé la chambre de l'homme et la chambre d'une mouche. Et dans la chambre de mouche, c'est l'idée de montrer la perception de la mouche d'une chambre. Par exemple, la lampe joue un rôle central parce que la mouche aime bien entourer la lampe. Et aussi la table, oui. Il y a de la nourriture. Pour la mouche, c'est très important, tandis que le reste dans cette image n'est pas important. Et voilà, ça m'a beaucoup fasciné, ce désir de reconstruire, de imaginer la perception d'une mouche.
Désir impossible, parce que évidemment, cet œil de mouche qui est extraordinaire, il nous semble aveugle, ce qui pose le problème global, Armel Femla, qui est un problème historique, un problème d'histoire de l'art aussi, du point de vue animal, comme le dit Éric Baratin.
Oui, alors pour rebondir sur la question de la vision de la mouche, dans Qui a vu le zèbre, l'invention de la perspective animale, Thibaut de Meyer, il revient sur cette expérience de Jacob von Nieuwkuil. Il rajoute qu'auparavant, en 1890, Sigmund Exter avait fait une expérience qu'il avait placé la lentille d'un œil de mouche devant un objectif photographique pour déjà essayer de comprendre comment une mouche voyait, parce que la mouche avec tous ses yeux à facettes, donc... on voit dans des films des expériences, comme vous racontez dans votre livre, de vues démultipliées, etc. C'est très compliqué pour un humain
d'imaginer ça.
D'imaginer. Voilà, le point de vue d'animal, c'est compliqué, mais ça peut être intéressant.
Mais vous y êtes essayé d'ailleurs avec les chiens de Gonzaga.
Avec les chiens, avec les chevaux, etc. En travaillant en interdisciplinarité avec des spécialistes du comportement vétérinaire, de la vue. Là, on parle de la vue, mais voilà.
Dans un livre à paraître, puisque tout part effectivement de ces... portraits doubles, qui sont des portraits interspécifiques.
Pas forcément que doubles.
Parce qu'il y a des chiens, racontez-nous un petit peu les chiens.
Alors, des chiens, des chevaux, des faucons aussi, que j'ai moins bien étudié, mais à partir du milieu du XVe siècle, on fait les marquis puis ducs de Mantoue demandent qu'on fasse des portraits de leurs chiens, cheval, faucons préférés.
Qui, eux, ont des noms, sont des individus, sont bien identifiés.
Ont un statut hors du lot des autres de leur espèce, etc. Sont vraiment mis en valeur dans une entreprise politique, puisque les Gonzagues sont à l'instigation du concept de razza, qui sera à l'origine de nos races, par sélection, etc., par choix. Et donc, il y a des liens privilégiés et des collaborations, en fait, entre différentes espèces, et humaines, et canines, et équines.
Et dans un livre à paraître, Armel Femla, vous ne vous contentez pas de rechercher le point de vue animal, mais vous imaginez aussi, comme Éric Baratel avait fait d'ailleurs pour les chats.
On le fait ensemble.
L'expérience
faite sur le langage chien, ne sera finalement pas publiée dans le cadre de ces ateliers que nous faisons avec Éric. Parce que nous étions allés avec la vétérinaire avec laquelle je travaillais très loin dans le processus, ce qui n'était pas le cas des autres. Enfin, bon, bref. Mais c'est une très très belle expérience d'altérité et qui permet vraiment, réellement, quand on l'expérimente, de voir les choses différemment.
Alors que vous, Peter Grimer, c'est plutôt l'espèce qui vous intéresse chez la mouche.
Oui, l'espèce, mais aussi d'ailleurs le regard. Et puisque vous avez parlé d'un chat, il y a un texte extraordinaire de Jacques Derrida, « L'animal que dont je suis ». Et là, il commence avec les réflexions. Donc, il entre la salle de bain, comme chaque matin, et il y a son chat qui le regarde, et il est nu. Il se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire d'être regardé par un chat? Est-ce qu'il faut avoir honte? Et il dit, le regard de ce chat, c'est l'autre, et dans ce regard, je vois moi-même comme quelque chose d'étrange. Donc il s'identifie, si l'on peut dire, avec le regard du chat, et il devient pour lui-même étrange. Donc il voit, en prenant comme point de départ le regard d'un animal, on se transforme en quelque chose de très étrange.
Alors, pour être encore plus étrange et aller plus loin dans la transformation, évidemment, on va commencer à parler maintenant de cinéma. Puis évidemment, comment ne pas songer à La Mouche de David Cronenberg, 1986.
Seth, I'm here.
Stop.
Seth.
Tu avais raison. Je suis malade. Ça évolue de plus en plus vite. C'est irrémédiable chaque jour. Il y a des changements. Chaque fois que je me regarde dans la glace, je vois un être différent, hideux, repoussant.
Que s'est-il passé?
Je n'étais pas pur. Le téléporteur te laisse ta pureté. Je n'étais pas pur. Une mouche est entrée dans... dans le télépod transmetteur avec moi la première fois quand j'étais seul. L'ordinateur a été ennuyé. Il ne devait pas y avoir deux systèmes génétiques séparés, alors. Et il a décidé de nous fusionner tous les deux. Il nous a unis, moi et la mouche. Nous n'avions même pas été présentés avant.
Oh, mon Dieu. Non. Oh, mon Dieu. Seth.
Tu es si belle.
Oh, que va-t-il t'arriver?
Oh, c'est en train de devenir une sorte de cancer, mais de forme bizarre.
Quoi?
C'est un chaos, une révolution cellulaire générale. Je vais être désintégré. D'une manière nouvelle, sans doute. Et alors je mourrai. Et ce sera fini.
Oh!
Oh, c'est dégoûtant. Mon oreille! Non!
Oui, c'est dégoûtant, en effet, Peter Geimer.
Oui, donc c'est aussi la nausée qui est liée à la mouche. Et il y avait, voilà, ce film de Cronenberg avait plusieurs prédécesseurs, pour ainsi dire. Il y a la mouche noire de Kurt Neumann dans les années 50. Et là, il y a une scène extraordinaire parce que, comme chez Cronenberg, c'est l'histoire d'un scientifique qui se transforme en une mouche parce qu'il était dans ce téléporteur avec une mouche. Donc après, c'est un mélange entre l'homme et la mouche. Et chez Kurt Neumann, dans les années 50, c'est plutôt la physique, c'est pas la génétique comme chez Cronenberg, c'est la physique. Et il se cache parce qu'il a son corps normal, mais il a la tête d'une mouche. Et il se cache et la femme, un jour, elle ouvre la porte au laboratoire et elle voit son mari avec ses têtes d'une mouche. Et en ce moment, on voit dans le cinéma la perspective de la mouche. Ça veut dire quoi? On voit la femme de ce scientifique vue par une mouche, comme les mouches avec ses yeux spécifiques voient, donc encadrés en mille détails, etc. Je crois que dans l'histoire du cinéma, c'est peut-être la première fois,
oui,
que les spectateurs, dans la salle, dans l'obscurité de salle, se sont transformés en mouche, parce que on partage la perspective de la mouche, et on voit comment la mouche voit, regarde, perçoit la femme de cette physicien.
Et ce qu'on attend d'ailleurs de ce regard de la mouche sur le monde, sur notre mort qui vient aussi, parce que tout ça c'est quand même un précis de décomposition, c'est quoi au fond Peter Geimer? Parce que en allemand par exemple, mouche et mouchard se dit d'un même mot, hein, au fond, c'est-à-dire que la mouche a quelque chose à une indication, hein, comme les flics ont des indiques, à nous donner sur nous. C'est quoi, au fond?
Oui. Oui, c'est très paradoxe. C'est comme je disais, la mouche se définit par des négations. Et vous avez cité ce passage extraordinaire de Canetti où il parle du désir de tuer une mouche. Et ça, c'est d'un point de vue anthropologique extraordinaire, parce que normalement, on ne tue pas des animaux. Et je crois que c'est aussi parce qu'on ne se sent pas regardé par une mouche. Normalement, on ne tue pas des animaux. On n'était pas des êtres qui nous regardent, mais la mouche est plutôt traitée comme une chose, hein, une chose qui bouge, mais pas vraiment comme une existence, avec des yeux qui nous regardent, etc.
5 mars 2017, dans l'avion qui m'emmène à Milan, je m'endors quelques minutes après le décollage. Un peu plus tard, un léger courant d'air sur la tempe me réveille. C'est la première mouche de l'année. Elle a décollé avec nous à l'aéroport de Berlin-Tegel. Que c'est étrange. Une mouche à l'intérieur d'un avion, un vol dans le vol, mobilis in mobile. Nulle envie de tuer l'animal. C'est comme ça que se termine votre livre.
Oui, c'est une histoire vraie d'ailleurs. Et je peux dire que depuis que j'ai terminé d'écrire ce livre, j'ai arrêté de tuer les mouches. Oui, peut-être pas pour des raisons éthiques, donc je ne veux pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais je vois qu'il n'y a pas de nécessité. Et en écrivant ce livre, je veux dire que il y a maintenant un certain respect pour ces animaux.
Bah, c'est bien. Pierre, vous avez fait quelque chose de bien aussi, c'est que dans votre livre, vous avez parlé de Breaking Bad, et ça a vraiment fait plaisir à Mathieu Pot-Bonneville, le directeur du département culture et création du Centre Beaubourg, qui nous écrit une carte postale.
Vous allez écrire un livre.
Un livre?
Mais je ne pourrai pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, vous êtes-vous déjà demandé si vous aviez manqué le moment parfait ? Ce moment où votre disparition aurait causé à vos proches le degré exact d'affliction nécessaire à conserver votre souvenir intact. Point qui, d'être désormais situé loin derrière vous, ferait de votre existence actuelle une survivance indéfinie, privée d'échéance et de signification. Ce n'est pas une pensée très gaie, j'en conviens. C'est celle qu'énonce Walter White, ancien professeur de physique-chimie reconverti dans le narcotrafic, à demi évanoui de fatigue, cependant que son ex-étudiant, assistant et souffre-douleur Jesse Pinkman, juché sur un escabeau en équilibre précaire, s'efforce de tuer une mouche. Une mouche posée au plafond du laboratoire où il devrait à ce moment même être affairé à fabriquer de la méthamphétamine. Nous sommes dans la troisième saison de la série Breaking Bad, au 10e épisode pour être précis. Et on pourrait penser que la question que j'évoquais, ai-je duré trop longtemps, manqué ma propre fin ? Que cette question est celle que se pose alors la série elle-même, tant cet épisode intitulé Fly est demeuré fameux pour l'immobilité terminale qu'il déploie. Lourd d'une durée sans enjeu, on dirait hanté par la formule beckettienne « pour finir encore ». Pourquoi ? Au long des 47 minutes que dure cet épisode, les personnages sont-ils précisément occupés à chasser une mouche ? On dira que celle-ci allégorise le tourment du personnage, l'infime dérèglement qui défie sa rigueur quand il devrait bien plutôt s'inquiéter de l'immense chaos qu'a créé dans sa vie et celle de ses proches sa minutie forcenée. Le sens moral est donc assez clair, mais il s'assortit à mon avis d'une référence plus secrète. The Fly appartient à un genre très particulier, celui des épisodes auxquels les séries se voient contraintes de recourir lorsque le budget leur fait temporairement défaut. Limitant décors, figurants et jours de tournage, on appelle cela dans le jargon des productions télévisuelles des « bottle episodes », des épisodes bouteilles. La mouche est donc dans une bouteille, et ça devient intéressant. Car il devient alors difficile de ne pas penser à l'une des paraboles énoncées par le philosophe Ludwig Wittgenstein au paragraphe 116 de ses investigations philosophiques. Le but de son travail, écrit Wittgenstein, c'est de faire sortir la mouche de la bouteille à mouche où elle s'était emprisonnée. Et en cascade, il devient alors difficile de ne pas remarquer que lorsque Walter White, entre deux rationalisations paniques, énonce son impuissance, je cite « Je pense vraiment qu'il devrait exister une combinaison de mots dans un ordre précis qui pourrait tout expliquer, mais impossible de le trouver. » Fin de citation. Cette foi désespérée dans la puissance absolue du langage, c'est précisément et dans ces termes ce que Wittgenstein diagnostique comme la racine de notre tendance à nous enfermer dans de faux problèmes. Je ne veux pas dire simplement que l'ensemble de cet épisode est une méditation sur l'œuvre de l'auteur du Tractatus Logico-Philosophicus, ce dont je suis intimement convaincu. Je veux dire surtout que lorsque, par un renversement visuel justement noté par Peter Geimer dans son livre, la caméra tête en bas et depuis le plafond fait voir un instant le laboratoire et ses occupants par les yeux du diptère, la caméra donne la vérité de l'épisode en désignant les véritables mouches. Mouches prises dans l'immense bouteille de leur laboratoire nickelé, mouches bavardes et bourdonnantes divaguant par bonds secs d'un arrêt invivable à l'autre. Si ce récit bref comme une nouvelle a bouleversé le public, Patrick, c'est aussi que le désir d'y tuer la mouche est une autocritique de la raison et une invitation à se taire à défaut de pouvoir s'envoler.
Ça, c'est extraordinaire, ça.
Mademoiselle Hortense, venez, venez voir, vite, vite, venez voir.
France Culture.
Me voici, professeur Thibault, qu'avez-vous découvert ?
Regardez.
Allons-y voir.
Qu'il est con !
La mouche qui pète.
Patrick Boucheron.
On me fait des cadeaux, hein, de l'autre côté de la vitre. Voilà, c'est des hommages. Peter Geimer... Bel épisode, hein, quand même, hein, et qui est un épisode limite. Ouais. Alors, Wittgensteinien, je sais pas, c'est la proposition de Mathieu Pottebonneville. Enfin, qui dit quand même quelque chose d'essentiel sur, justement, tout ce que vous cherchez à configurer sur le regard de la mouche. Ouais.
Il y a aussi un détail qu'on peut ajouter à cette histoire de Breaking Bad. c'est sur la perspective de la mouche. Mais je crois qu'il y a aussi autre chose, parce que dans ce livre, j'ai essayé d'éviter que ce soit une suite des anecdotes. Donc, oui. J'ai essayé de trouver des pistes, des fils rouges, etc. On a parlé de plusieurs de ces pistes. Et un fil rouge, c'est aussi le motif, la mouche comme un animal très, très petit, mais qui peut causer un désastre énorme.
C'est ça.
Donc, il y a une différence entre cette petitesse, et là aussi, Breaking Bad, cette série, c'est très bien montré, parce que il y a le laboratoire, et un laboratoire comme aussi dans ce film The Fly, doit être un endroit pur, sans contamination. Et la mouche, c'est la contamination en tant que telle. C'est, pour ainsi dire, l'incarnation de la contamination, la très petite, mais elle peut détruire tous les essais, par exemple, dans ce cas-là, de produire le crack. Et voilà, ça c'est aussi très bien montré dans cette scène, le petit animal, mais qui peut causer un désastre.
Un désastre. Alors, ouais. Ce désastre, il peut être épidémique, il peut être biblique. Il y a un moment extraordinaire aussi dans votre livre, quand vous évoquez cette réécriture de la Genèse par Mark Twain. Ouais. Donc, c'est un moment où, en fait, l'Arche de Noé est au bord de larguer les amarres, il faut aller vite parce qu'il y a les animaux préhistoriques qui veulent aussi y rentrer, et ça, il n'en est pas question, mais on a oublié la mouche. Donc on fait demi-tour, on va aller la chercher, ouais. Et ce que décrit Mark Twain, c'est que là, on est à deux doigts, justement, parce que la mouche, c'est l'imprévisible, c'est ce que vous dites bien dans votre livre, de déclencher une épouvantable catastrophe.
Voilà. C'est de nouveau le motif, la petite mouche, et le catastrophe, donc l'arche qui est déjà partie, et on se rend compte, il y a quand la mouche qui manque, mais il faut qu'elle est là, parce qu'on veut vraiment avoir la création en totalité, donc il faut revenir pour chercher la mouche, et ça c'est l'épisode que Mark Twain décrit, la recherche de la mouche, et là de nouveau on a ce motif, l'arche avec tous les animaux, etc. Et la petite mouche qui a causé ce grand problème et ce grand désastre.
Toujours une affaire d'échelle, Armel Femelin. Au fond, on ne sort pas de cette peinture de la Renaissance dont vous avez dit que finalement, elle faisait de la mouche, je dirais, le maître du regard du peintre.
Mm-hmm. Et pour rebondir sur cette histoire de mouche catastrophe, Peter Gaimer, dans le livre, nous montre également une enluminure qui vous aura pas échappé, Patrick, conservée à Bayonne, au musée Bonnat, qui vient de réouvrir, de la fin du XVe siècle, et qui représente le roi David avec la mouche qui évoque la peste.
Justement. Hein, oui, parce que la mouche, c'est celle qui a, évidemment, qui est porteuse, et ça, vous avez des pages terribles là-dessus, de toutes les catastrophes, et microbiennes également. Peter Gaimer.
Voilà. Et dans ce cas-là, Patrick Boucheron, vous êtes spécialiste de la peste. Je crois qu'il s'agit de la peste aussi. Donc, dans ce manuscrit illuminé de Bayonne, on voit David, donc de rue de Judée, en genoux, et il prie Dieu qu'il finit l'épidémie de la peste. Et derrière lui, derrière sa tête, on voit une mouche. Et ça, c'est une provocation, parce que la mouche est aussi associée avec la peste, avec les maladies, etc. Donc,
tout ça me fait trop peur. Écoutez, on a écouté la mouche de Michel Polnareff. Je propose quand même maintenant d'écouter Le Moucheron de Thomas Fersen. Ça va nous détendre.
Allongé sur mon pucier, je me repose les pieds, je me repose l'esprit, ce moment n'a pas de prix. Un moucheron tourne en rond sur le plafond, un moucheron tourne en rond sous le néant. Autant aller prendre un pot pour procurer du repos à mes pieds, à mon cerveau. Oui, mais voilà qu'à nouveau, un moucheron tourne en rond dans mon picot. Un moucheron dans le bouillon, apprend la brasse papillon. Le picon m'a donné faim et il faut y mettre fin. Je m'invite au restaurant, je me plains au chef de rang. Un moucheron tourne en rond dans le cresson. Un moucheron, c'est pas bon, appelez-moi la direction. Oh, l'amour. Thank you. J'ai plus que ce mot à la bouche depuis que cette sale petite mouche m'a piqué dans mon sommeil, m'a piqué à l'orteil. Ce moucheron, ce vol bouillon, ce tourbillon, ce cupidon qui tourne en rond, qui tourne en rond, qui tourne en rond comme un flocon. Avec une joie canine, je m'enfuis chez la voisine et le mouchon s'envola. Et voici, et voilà, nous dansions, nous tournions sous les lampions. Nous dansions, nous tournions au son de l'accordéon. L'amour m'a donné des ailes, avec un peu trop de zèle. J'ai l'esprit qui papillonne et les oreilles qui bourdonnent. Les moucherons tournent en rond et me couronnent le citron. Je suis le roi des moucherons, je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond.
Et si c'est sur cette musique guillerette que vous avez fait cette entrée très remarquée dans notre studio, Elvan Zabunian, bonjour.
Bonjour Patrick Boucheron.
Alors ça vous inspire quoi tout ça?
En fait, j'ai pensé tout de suite aux mots en anglais quand j'ai su le sujet de l'émission, absolument passionnant. Donc l'idée qui m'est venue, c'est la façon dont David Hammond, qui est un artiste donc américain, a représenté les mouches dans son travail. David Hammond est né en 1943 à Springfield dans l'Ohio. Et il a déménagé à Los Angeles en 1963, puis à New York en 1974. Et il est l'un des acteurs principaux de cette scène artistique africaine-américaine engagée dans une pratique où l'art, dans la tradition de l'assemblage et de l'usage d'objets récupérés, est un écho direct de l'espace urbain, en particulier dans un moment politique chargé, qui est celui des révoltes de Watts, qui se déroulent en août 1965 dans ce quartier noir de Los Angeles. Et je parle de cette question de l'assemblage et de la récupération, puisque trois œuvres de Hammond sont des variations autour de la mouche, qui est « fly » en anglais.
Qui a un double sens, donc.
Un double sens. Et puis, puisque « fly », ça se réfère aussi à la tirette de la fermeture éclair. Dans le langage courant, on parle de fly pour évoquer la braguette d'un pantalon. Dans une œuvre non datée qui a été réalisée au début des années 1990, David Hammond utilise un cadre de fenêtre en bois sur lequel est tendu, alors j'ai ramené l'image si vous voulez la regarder, tendu un grillage métallique à mailles fines qui a la fonction de moustiquaire ou d'anti-insecte. Et sur le grillage de cette fenêtre récupérée, qui est un parfait format tableau, l'artiste place 12 tirettes de fermeture éclair qui visuellement sont exactement comme 12 mouches qui se sont posées. Il y a dans ce geste artistique la fugacité de l'insecte et le mouvement arrêté qui se confronte. Autour de la même période, l'artiste réalise une autre œuvre où la mouche est invitée. Elle est montrée en 1990 à Cambridge, en Grande-Bretagne, dans l'exposition Rewriting History, réécrire l'histoire avec l'art, dans un contexte politique où la pensée s'ouvre à des questions critiques globales. Et l'écrivaine Deborah Levy a visité cette exposition et en garde un souvenir indélébile. 30 ans plus tard, elle publie un article dans la revue d'art britannique Freeze. Elle y décrit son expérience face à cette œuvre de Hammond où il est encore question de mouche. Cette fois, la mouche est posée sur la surface du sucre dans un sucrier. Deborah Levy écrit « L'installation qui me préoccupa le plus fut la mouche que David Hammond plaça dans un sucrier et qu'il intitula « Fly in a sugar bowl »« Mouche dans un sucrier ». Je me souviens d'une table de service ronde avec un petit plateau orné d'une plante, peut-être celle des plantations, où les enfants, les femmes, les hommes, mis en esclavage, cultivaient et transformaient l'or blanc pour leurs maîtres brutaux. Le sucrier était rempli de sucre blanc, et à la surface du sucre se trouvait une mouche noire. La mouche noire était la tirette d'une fermeture éclair, peut-être celle d'une braguette de pantalon. C'est un rébus visuel avec le double sens d'un même mot. Le rébus de Hammond semblait demander « À qui est l'histoire que nous écrivons ?» La tirette de la fermeture éclair, la mouche, était une rupture de la narration, une perturbation, une présence d'un témoin posé doucement sur le doux poison de la suprématie blanche. Donc ça, c'est la phrase de Deborah Lévy. Et tout à l'heure, Peter Geimer évoquait, ou en tout cas a cité Marcel Duchamp. Marcel Duchamp était un artiste qui a beaucoup inspiré David Hammons, puisque justement l'usage d'objets, ou en tout cas de ready-made, est aussi inscrit dans son travail. Et la question raciale qu'évoque Deborah Lévy est en effet omniprésente dans l'œuvre de David Hammons, dont la production est l'une des plus singulières et puissantes de la culture visuelle africaine-américaine contemporaine. Et l'œuvre, donc Fly in a Sugar Bowl, a été présentée en 1993 dans l'une de ses expositions personnelles dans sa ville natale, où l'artiste se souvient des réprimandes racistes de son enfance dans une petite ville ségrégée des États-Unis. Et cette question donc de la mouche, de Fly, qu'il propose, on la retrouve aussi, et ça c'était la troisième œuvre à laquelle j'ai pensé, qui est Flies in a Jar, donc des mouches dans un bocal. Tout à l'heure, il était question de la mouche dans la bouteille. Et cette œuvre, qui date de 1994, rappelle ce que l'on peut voir dans les musées d'histoire naturelle. Dans un bocal recouvert du même grillage anti-insectes, une fragile brindille accueille plusieurs mouches, tirettes de fermeture éclair, et les flies sont prisonnières et ne peuvent plus s'envoler.
Merci Elvan Zabunian. On retrouve Peter Geimer, justement, cette imprévisibilité, cet agent de l'effraction du réel, qui est finalement le principe narratif de votre livre.
Oui, je trouve ça très intéressant que la mouche reste un animal qui intéresse les artistes, mais pas plus, je ne sais pas si vous êtes d'accord, dans le sens du trompe-l'œil. Donc là, il ne s'agit plus de tromper ou de parler du degré de la réalité, parce que c'est une discussion un peu finie.
Oui.
Mais il y a des autres approches que vous avez très bien montrées.
Alors, la question du rébus visuel, bien sûr, qui est aussi un hommage à Marcel Duchamp. Après, il y a aussi d'autres mises en abîme possibles, puisque le terme de fly, dans le contexte aussi du slang ou de l'argot noir américain, peut aussi avoir des suggestions sexuelles par la braguette du pantalon.
Oui.
Il y a tout aussi des éléments en fait que l'on peut décliner. Et puis le mot fly est très présent dans la musique soul, par exemple, oui, ou funk. Bon, il y a des morceaux, Fly With Me, qui est aussi un appel à partir dans une aventure amoureuse. Donc la question de la mouche ou fly est toujours très suggestive.
Et fliegen en allemand, j'y faisais allusion tout à l'heure, c'est d'où vient notre flic. Au fond, c'est aussi le mouchard, c'est celui qui amène une nouvelle, d'une certaine manière.
Vous avez tout à fait raison. Et le titre en allemand, fliegen, ça peut aussi dire voler.
Oui.
Donc on m'a toujours demandé si j'écris un livre sur les avions, etc. Ça ne se voit pas immédiatement. Donc le titre fliegen, ça peut être l'animal, mais ça peut être aussi
le vol.
Rouler. Le vol.
Oui, c'est ça. Voilà. On est bien loin maintenant, effectivement, Armel Femla, de notre point de départ, qui était tout simplement le trompe-l'œil, hein, pour au fond saisir cette question du portrait. Le très beau livre, hein, on l'a compris, de Peter Geimer, s'appelle Mouche, un portrait. Comment vous comprenez d'ailleurs ce sous-titre, un portrait?
Justement, je le comprends pas vraiment. C'était une question que j'avais envie de poser à Peter également. Portrait de mouche, un portrait au singulier et mouche au pluriel.
Oui.
Votre titre.
Donc il y a une réponse très très clair, parce que je viens de dire qu'il s'agit d'un livre qui fait partie d'une série, et la série s'appelle Portrait, donc les titres sont toujours l'animal, donc cochon, mais une chose intéressante,
donc c'est vous le portraitiste,
voilà,
en fait.
Et un portrait. Et puisque j'ai mentionné le cochon, l'auteur de ce livre sur le cochon, il réfléchit dans le livre qu'on peut prendre le titre comme portrait de l'auteur. Donc c'est Cochon, un portrait de Thomas Maro, c'est l'auteur.
Oui, c'est ça.
Et il dit, ah là, on peut me prendre pour un cochon. Avec la mouche, c'est pas possible. Mouche, un portrait de Peter Geimer, personne ne pense qu'il s'agit d'un portrait de l'auteur comme mouche. Parce qu'on
on est trop différent.
Voilà.
On est vraiment beaucoup trop différent avec la mouche. C'était Allons-y voir. Merci à vous trois, Peter Geimer, Armel Femla et Elvan Zabunian. Les références de vos parutions sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Anouk Minaudier, à la prise de son Mineta Diawara et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous.